Moi,
j'ai l'impression parfois d'être un peu comme ces présentateurs de la télévision qui annoncent des choses, mais qui sont équipés, on la voit pas, d'une oreillette. Eh bien, moi je crois qu'un prédicateur de l'Évangile doit aussi dépendre d'une écoute permanente de ce que le Seigneur veut dire et qu'il accepte aussi d'être bousculé dans ce qu'il a préparé. Je ne sais pas ce qui va m'arriver ce matin, mais bon. Alléluia. Seigneur, veuille bénir cette parole que nous vous désirons pour nourrir notre foi, notre espérance, pour renouveler nos attachements à toi. Amen. Il y a un petit texte qui m'a turlupiné depuis quelque temps. Ça arrive des fois, un texte de rien du tout, mais de rien du tout, comme dirait. En fait, y a-t-il des textes de rien du tout? Je ne sais pas. 1 Timothée, chapitre 1er, versets 8 à 9. Paul écrit à Timothée ceci. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'a un peu intrigué, cette histoire. La loi. On va lire un deuxième texte dans la lettre aux Galates. Galates, chapitre 3, versets 10 à 14. Voici ce que Paul écrit à cette église, un peu troublée, tourmentée. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que personne ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors, il y a entre ces deux textes, comme un point d'interrogation. L'opinion de Paul quant à la loi est négative, à bloc, face à l'Évangile. Or, pourtant, il est capable de dire « la loi est bonne ». Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons que les débuts du christianisme ont été marqués par de nombreuses controverses entre les milieux judéo-chrétiens, originaires de Jérusalem, et qui peut-être se considéraient comme la maison mère, et puis les églises fondées par Paul, en milieu païen, plus affranchies des prescriptions de la loi de Moïse, et peut-être considérées comme de simples succursales. Les prescriptions de la loi de Moïse, c'était un marqueur identitaire fort pour les judéo-chrétiens. Puis Paul semble prendre le large avec ces histoires-là. Circoncision, respect du sabbat, surtout ces deux points-là, mais encore bien d'autres. Paul s'affranchissait, et les églises fondées par lui semblaient, oui, avoir pris des libertés. On connaît cette fameuse controverse du chapitre 15 du livre des Actes, où les judéo-chrétiens de Jérusalem fronçaient le sourcil quand on parlait de l'église d'Antioche. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Juifs et païens qui mangent ensemble, c'est n'importe quoi. Il a fallu se rencontrer, discuter, disputer, dans le sens de la disputatio, qui n'est pas une bagarre, mais qui est un échange parfois vif de points de vue, et on s'en est sorti par un accord, on s'est concilié en décidant de considérer les chrétiens, pagano-chrétiens, plus ou moins affranchis des signes identitaires du judaïsme, comme de vrais frères en Christ. Ça ne s'est pas fait facilement. Ce ne fut pas un accouchement sans douleur. Il y a bien des textes dans les épîtres, l'épître aux Romains, dans les lettres pastorales aussi. Vous savez ce qu'on appelle les lettres pastorales, Timothée, Tite, etc. Et ces controverses ont, je dirais, troublé, voire empoisonné, en tout cas habité très profondément cette période d'un christianisme primitif qu'on aurait tort de croire unanime, paisible, d'un seul bloc. Donc c'est ce texte de Paul qui a éveillé ma curiosité. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ah. Y aurait-il un usage illégitime de la loi en christianisme? Que s'est-il donc passé pour établir une différence d'usage légitime ou illégitime de la loi? Dans son évangile, Matthieu a placé le grand discours appelé le sermon sur la montagne, dans lequel Jésus est présenté comme un nouveau Moïse. Moïse sur le Sinaï qui reçoit la loi. Et donc, pour Matthieu, Jésus est comparé à ce grand homme que fut Moïse. Et il le qualifie comme l'interprète légitime et définitif de la loi. Dans ce discours, chapitre 5, versets 17 et 18 de Matthieu, Jésus déclare qu'aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de la loi. Mais après, de façon plus critique, Matthieu va mettre dans la bouche de Jésus ce qu'on appelle les antithèses. C'est les versets 21 à 48, dans lesquels, à 6 reprises, Jésus déclare « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, ceci, cela, or, moi, je vous dis. » Tiens. Par exemple, il a été dit aux anciens « Tu ne tueras pas. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Or, moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite aussi d'être puni par les juges. » Etc. À 6 reprises, vous avez appris, or moi, je vous dis. Bien sûr, on comprend que Jésus ne volatilise pas la loi, il ne la dilue pas. Au contraire, il la renforce. Il va à la racine. Le discours de Jésus est radical. Ni gauche, ni droite. Il radicalise la loi et il n'en atténue pas les exigences. Seulement, il y a un petit secret, c'est que Jésus a une autre proposition. À la fin du sermon sur la montagne, Matthieu écrit que les foules étaient frappées par son enseignement donné avec autorité. Alors comprenons bien cela. Il n'est pas question ici d'autoritarisme, mais d'une liberté de parole qui vient bousculer l'enseignement traditionnel, séculaire des scribes. Jésus a reçu mandat, c'est ça le sens du mot autorité. Il a reçu une autorisation, celle dont Dieu est l'auteur, de parler en son nom. Il vient pour mandaté par Dieu pour radicaliser la loi au nom de l'amour. L'amour divin, l'agapé. Comme si Dieu avait établi un sens interdit. On ne peut plus aller que dans un seul sens, celui de l'amour. L'amour du semblable est prioritaire. Il y a un autre texte qui m'a beaucoup fait réfléchir aussi, c'est ce que Paul déclare. Christ, le Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Cette fin de la loi peut être comprise de plusieurs façons. Ce n'est pas qu'elle n'existe plus, puisque Paul dit qu'elle est bonne. Mais il faut en user selon le sens unique de l'amour. La fin de la loi, on va essayer de la comprendre de trois façons. Une fin historique. La loi a régné sur le peuple de Dieu jusqu'à une époque de réformation qui coïncide avec la venue, la mort et la résurrection de Jésus. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire jusqu'au Christ ou vers le Christ. C'est-à-dire qu'elle a permis de prendre conscience de la puissance, de la virulence du péché et de l'incapacité humaine à satisfaire à ses exigences. C'est ce fameux cri de Paul dans Romains 7, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de cette nature humaine, rebelle, faible et opposée à la loi de Dieu ?» C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Dans ce chapitre 7, et dans ce cri au secours de Paul, il n'est pas question du cri d'un croyant, de quelqu'un qui est né de nouveau. Il s'agit de la situation dans laquelle se trouve Paul avant la rencontre du chemin de Damas. De la situation où se trouve quiconque n'a pas encore rencontrer Jésus-Christ. Ça me semble logique. Parce que juste après ce cri de détresse, qui me délivrera ? La réponse est là. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est la loi de l'amour. Et Paul résumera cela en disant que l'amour est l'accomplissement de la loi. Voilà. C'est clair. Donc, de ce point de vue, Christ est la fin de la loi, je dirais de la loi gravée dans la pierre, de la loi extérieure à nous et qui nous accuse, qui nous accusait, et qui faisait que nous étions maudits, réprouvés, nous aussi. Eh bien, dans la mort de Jésus, cette loi extérieure à nous est morte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est tout ce que ça vous fait. Alléluia. Il y a une autre manière de comprendre Christ comme fin de la loi. C'est la fin dans le sens d'un accomplissement. Seul Jésus peut demander « Qui de vous me convaincra de péché ?» Seul Jésus, en mourant, peut dire « Tout est accompli ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en Jésus de Nazareth, mourant sur la croix, la loi a trouvé son maître. Elle a trouvé plus fort qu'elle. Car c'est de lui désormais que vient la justice de celui qui croit. Mon juste vivra par la foi. Il ne sera pas déclaré juste par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ. Réjouissez-vous. Quand nous prions, nous pouvons prier avec assurance. Nous pouvons prier en pleine confiance parce que Dieu nous regarde à travers Jésus, à travers lui. Et Paul dira que ce document qui nous condamnait, qui nous accusait, est mort. Une fin historique, une fin dans le sens d'un accomplissement, et enfin, la fin de la loi dans un sens, pardonnez-moi ce mot, juridictionnel. Vous le comprenez ce mot ? La juridiction, c'est la parole qui commande sur un peuple. Elle fait loi. La fin juridictionnelle de la loi. Jésus ressuscité nous a libérés de la malédiction de la loi. Il nous a soustrait à cette ancienne juridiction et il nous a fait entrer dans une juridiction nouvelle, celle de l'Esprit. Et ce qui caractérise l'Esprit, ce n'est pas qu'il amoindrisse la loi, mais il la rend absolue dans le sens de l'amour. Christ nous a libérés. Nous ne sommes donc plus sous la tutelle des puissances spirituelles qui étaient chargées de gérer le règne de la loi sur Israël. Je ne vais pas entrer dans le développement de cette idée-là, mais elle est présente. Par exemple, dans le témoignage d'Étienne, en procès, ça va mal finir pour lui, il sera lapidé, mais qui remonte les bretelles à tous ses accusateurs en leur disant « Vous n'avez pas gardé la loi que vous avez reçue par des commandements d'anges. » Moïse a reçu la loi par l'intermédiaire des puissances angéliques. Ces puissances angéliques étaient chargées de punir les transgressions de la loi. Dieu dit à Israël « Je ne peux pas habiter moi-même au milieu de vous. Mon ange vous accompagnera. Mais attention, il ne vous laissera rien passer. » Et ça, cette tutelle angélique spirituelle, à mon avis, n'était pas seulement propre au judaïsme. Elle existait aussi dans les nations païennes, mais d'une manière démoniaque. Eh bien, la mort de Jésus a arraché l'humanité pécheresse à ses tutelles spirituelles anciennes. Et nous pouvons désormais, comme le dit Siméon, servir Dieu sans crainte. Parce que l'Esprit nous libère de ces déterminismes, de ces pesanteurs, de ces lois spirituelles qui oppriment, qui opprimaient, qui oppriment encore les peuples qui ne connaissent pas l'Évangile, ou les personnes même qui ne connaissent pas l'Évangile. Voici ce que Paul écrit dans sa lettre aux Colossiens. Je vais vous lire ce passage parce que je vous lis d'abord, je mélange deux traductions, parce que c'est quand même important de bien comprendre. Alors j'utiliserai la français courant et la TOB, qui me semble nous aider à accéder à ce langage qui est quand même un peu éloigné de nous. Colossiens 2, 10 à 15. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc comprenons bien que ces dominations et ces autorités, ce n'est pas seulement des démons, mais c'est aussi les puissances angéliques qui sont du côté de Dieu et qui nous mettaient en tutelle. Jésus est leur chef maintenant. Il est plus élevé que les anges. Alléluia. On l'a chanté tout à l'heure, Jésus, ton nom est élevé au-dessus de tout. Tout esprit méchant, mais aussi de tout esprit bon. C'est le number one, Jésus. Vous avez tout pleinement en lui, qui est la tête de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision du Christ, et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes aussi ressuscité avec lui, parce que vous avez cru dans la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Autrefois, vous étiez spirituellement morts, à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Il a annulé le commandement accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Ne voyez pas là des événements qui se seraient passés quelque part dans le ciel. C'est une image, enfin c'est cette dernière phrase. Paul a l'esprit les triomphes de César. Quand il revenait victorieux de conquête ou de combat, il défilait dans les rues de Rome avec attaché derrière son char le cortège misérable des vaincus. Il les livrait en spectacle, et parfois ça se terminait dans le ventre des lions, dans le cirque. Eh bien, Paul a cette image à l'esprit quand il dit que le triomphe de Jésus est total. Il est définitif, il est universel. Voilà pourquoi depuis ce moment-là, il y aurait un usage illégitime de la loi. Illégitime parce qu'il consisterait en un retour vers ce que la croix de Jésus a aboli. Et Paul en fait la démonstration. On ne peut pas revenir en arrière pour être justifié devant Dieu. Ce serait un usage illégitime de la loi. Il y a un sens interdit. Et quand les Galates veulent se faire circoncire, les Galates chrétiens, veulent se faire circoncire pour être bien sûr d'être sauvés. Paul voit rouge. Et il leur dit, mais attention, là vous êtes en plein sens interdit. Vous allez ramasser une contravention. Et il leur adresse une contravention. Mais Galates stupides que vous êtes, qui vous a ensorcelé? Mais n'allons pas croire que ce sont de vieilles histoires. Parce que nos milieux chrétiens ne sont pas toujours à l'abri d'être tenté d'en revenir à des lois inspirées de la loi de Moïse pour se démarquer des autres, pour se rassurer, peut-être se sentir un peu plus sauvé. On a vu dans nos églises à une certaine époque, assez reculée je dois dire, les chrétiens disent « il ne faut pas manger de boudin ben, ». C'est écrit « il ne faut pas manger le sang ». Moi, ça ne me dérange pas, j'aime pas ça. Mais voilà, des petites choses comme ça, sans parler des tenues vestimentaires exigées de nos sœurs, dans les assemblées, pantalons, foulards. Oh, excusez-moi. Je vais trop dans la précision, peut-être ? Non. Voyez-vous, il y a un vieux fond de crainte. Il y a une espèce, un désir de se rassurer quand même. On ne sait jamais, hein. Non, ce qui est important, vraiment, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà la loi. La loi absolue, intangible, avec laquelle on ne manque pas le but, on ne pêche pas. On ne peut pas revenir à la loi pour être justifié devant Dieu. ce serait un usage illégitime. Il y a un sens interdit. Ça va, vous supportez ? Dans la première lettre à Timothée, Paul exhorte son fils légitime dans la foi à ne pas se laisser impressionner par les discussions des casuistes de la loi. Les discussions des casuistes. Il ne faut pas zézayer, là. C'est ce que c'est qu'un casuiste ? Quelqu'un qui coupe les cheveux en huit dans le sens de la longueur. Hein. C'est assez difficile, mais... Et dans les milieux juifs, il y avait vraiment des fortiches là-dedans. Ils étaient probablement issus des milieux pharisiens que Paul connaît bien. Alors il ne conteste pas la bonté de la loi, mais il l'assujettit à une révélation supérieure, la révélation de celui qui lui est apparu sur le chemin de Damas. C'est vraiment un séisme que Paul a subi là, un tremblement de terre. Et Jésus va, il l'a chopé comme ça, il l'a attrapé, il l'a saisi, puis il l'a amené au désert, et là Jésus a enseigné Paul. Il le dit lui-même, « Mon évangile, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais d'une révélation de Jésus-Christ. » Et c'est vraiment précieux d'avoir dans le Nouveau Testament les écrits de Paul. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce ministère. Parce qu'il est le seul à vraiment avoir su mettre les mots pour nous aider à comprendre notre liberté, notre universalité, plus de frontières. Il ne s'agit pas de traduire ça en politique, bien sûr, mais qu'au moins les communautés chrétiennes sachent montrer à notre société que la réconciliation entre tous les différents est toujours possible, et même qu'elle n'est possible qu'en Jésus-Christ. Il n'y a que dans l'Église de Jésus-Christ qu'on peut voir hommes et femmes sur un pied d'égalité, toutes les ethnies du monde sur un pied d'égalité. Il n'y a que dans les Églises de Jésus-Christ qu'il y a une société fraternelle, libre. Tiens, liberté, égalité, fraternité. Ça n'aurait pas des racines évangéliques, ça ? Mais bien sûr que si. Beaucoup l'ont oublié. Ils sont tous en train d'avoir ça sur la bouche, mais ils n'ont pas la capacité de le vivre parce qu'ils ne se tournent pas vers celui qui seul peut nous permettre de vivre la liberté, l'égalité et la fraternité. Eh oui, les droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est pas sorti de la tête de, je ne sais pas, Robespierre ou Danton, que sais-je. Non, ça sort de l'Évangile, finalement, tout ça. La dignité humaine plus importante que la loi, ben tiens. Selon la stricte interprétation traditionnelle des scribes, la loi séparait le monde en deux, les fils d'Israël d'un côté et les goïs, les goïm ou goïs, il y a un M à la fin, non ? Les goïms, les peuples, ceux qu'on a malheureusement traduits par les gentils, pas toujours très gentils, surtout avec les juifs. Hein. Bref, mais selon cette vision des choses, le monde était coupé en deux. Pas de table commune. Pas de mariage entre juifs et non-juifs, sans parler des interdits alimentaires et autres. Alors on imagine sans peine le bouleversement provoqué par l'Évangile. Là aussi, c'est un séisme. Et il a fallu surmonter ce bouleversement. Ça ne s'est pas fait facilement, sans douleur, sans cri. S'y mêlaient des questions identitaires toujours dangereuses à poser. Mais il en allait de même pour les autres codes religieux du monde païen. Vous savez de quoi Rome accusait les chrétiens ? D'athéisme. Ils étaient, pour eux, c'était des athées. Il n'y avait pas de statue, il n'y avait pas de temple spécial dédié, de lieu sacré, pas de jour sacré, pas d'aliments sacrés. Sacré nom de... Ah ouais, c'était pour eux, c'était des athées. Hein, ça vous décoiffe de penser que nos ancêtres dans la foi étaient taxés d'athéisme. Mais s'il s'agit de ces dieux-là, oui, alors oui, nous sommes des athées. Mais nous ne sommes pas sans Dieu. Et Dieu n'est pas sans nous. Alors, vous vous rendez compte qu'à Antioche, on pique-niquait, comme on va le faire ce matin, ce midi, on pique-niquait ensemble. On se passait le saucisson, les huîtres, ou voilà, sans problème. Et à Jérusalem, ça les hérisse, ça les inquiète. Mais c'est quoi ça ? Eh bien, oui, on est arrivé à la conclusion que finalement, oui, c'est des vrais frères. On leur a demandé quelque chose à respecter. Les animaux étouffés, le sang, l'impudicité, les idoles. À part ça, on vous fait la bise. Jésus sur la croix a aboli ses divisions. Il a aboli la haine. Il a aboli le mépris. Notre vision du monde s'en trouve changée. Je parle pour nous, les chrétiens, qui avons cru et qui avons placé notre confiance en Jésus. Oui, par la résurrection de Jésus, Dieu a créé une humanité universelle, nouvelle. Et Paul est le plus grand avocat de cette universalité. Vous avez remarqué que dans un des évangiles, nous dit que l'écriteau qui était placé au-dessus de la tête de Jésus était en trois langues. En hébreu, en latin et en grec. La langue de la koiné, c'est-à-dire la langue passe-partout. L'anglo-américain de nos jours. En grec, en hébreu et en latin. C'est Pilate qui a fait ça. Sans se douter, il affirme là l'universalité du crucifié ressuscité. Il est une espérance porteuse pour notre monde. Oui, c'est là qu'elle se trouve. Et pas dans les gens qui réclament nos suffrages. Excusez-moi. Bon. C'est pourquoi, comme chrétiens, nous ne pouvons pas souscrire au discours raciste. C'est impossible. Ou faire de la nation un absolu, avec un N majuscule. Ni la famille, ni la patrie, des choses auxquelles on avait mis, à une époque, des majuscules. Nous ne pouvons pas faire cela. Sachant en plus tout ce que les frontières ont d'artificiel souvent. Je vais terminer. Pour résumer un peu, un usage illégitime de la loi qui transgresserait le sens interdit établi par Dieu. Cet usage enferme dans le passé, dans la division et l'exclusion. L'obéissance à l'amour, à la miséricorde, à la compassion telle que manifestée en Jésus, au contraire, ouvre un avenir. Et j'ai à l'esprit un dernier passage. Il s'agit dans l'évangile de Jean. Deux passages courts. Le premier, c'est 1:17. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Celui qui dit « je ne te condamne pas moi non plus » au chapitre 8. La femme accusée d'adultère. Celui qui dit « je ne te condamne pas non plus » dit aussi « va et désormais ne pêche plus ». C'est-à-dire que l'avenir s'ouvre pour elle, dans les pas de Jésus. Parce qu'il ajoute, celui qui me suit, ah, je ne te condamne pas non plus, mais viens et suis-moi. Opte pour l'obéissance de la foi. L'avenir s'ouvre, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. À nous de savoir comment refléter cette lumière du Christ dans nos actes, dans nos décisions, nos manières de vivre, nos choix de vie. Nous possédons ainsi une double citoyenneté. Moi, je suis double national, hein. Je suis franco-suisse ou suisse-français. Mais il y a une troisième qui s'y ajoute, citoyen des cieux. Et c'est ça qui compte. Nous savons que nous regardions à gauche ou à droite, notre monde va dans une impasse. Nous le savons. Alors, n'oublions jamais que quoi qu'il advienne, l'Évangile reste une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors vivons-le. Il fut une époque où il y a des gens qui voulaient prendre la défense des valeurs chrétiennes. Mais les valeurs chrétiennes ne se défendent pas, elles se vivent. Et elles s'imposent ainsi. Comme disait Lénine, il n'y a rien de plus têtu qu'un fait. Le fait chrétien est la meilleure défense et apologie de l'Évangile. Et je crois que notre monde en a vraiment, vraiment besoin. N'est-ce pas? Pas d'illusion sur notre monde. Ce dont il a essentiellement et définitivement besoin à nos yeux, c'est de l'Évangile. La bonne nouvelle de Jésus vivant. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite, pour cette liberté qui s'ouvre pour nous chacun et pour la puissance de ton amour qui surpasse toute intelligence. Oh, aide-nous Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Que ta grâce nous accompagne, que ton Esprit Saint nous unisse pleinement à toi et qu'il établisse en nos cœurs les lois de ton amour. Amen.
Je peux demander.